Il est 7h02. Luc, est-ce qu'il va y avoir une véritable course à la direction du Parti libéral? Il y a juste deux candidates annoncées en ce moment. Et ça se bouscule pas au portillon, là?
C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de la course à la direction du Parti libéral, mais les gens en parlent, puis ils se disent, ben coudonc, vas-tu avoir plus que deux candidates? Et je dis candidate, parce qu'à date, il y a deux femmes qui ont manifesté un intérêt réel. Ouais. On parle de Dominique Anglade et on parle de Marois Risky. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut falloir surveiller l'actualité très, très prochainement pour Dominique Anglade, parce que je pense qu'elle pourrait confirmer ses intentions très rapidement. L'été, c'est une bonne période pour les épluchettes de blé d'Inde, aller à la rencontre des militants libéraux, jaser avec eux autres, prendre le pouls. Alors, je pense qu'elle pourrait confirmer ses intentions très, très rapidement. Et on a un peu l'impression, c'est ce que les gens disent, c'est coudonc, ça n'intéresse pas personne. Hein? On dirait qu'il n'y a pas personne qui souhaite être candidat à la direction du Parti libéral du Québec. Et puis, je pense que cette impression-là, elle est beaucoup entretenue par les gens qui se sont désistés. Et la liste, elle est longue. Il y en a eu plusieurs qui ont réfléchi à voix haute, qui finalement ont dit « Non, 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 je vais passer mon tour ». Pierre Moreau, évidemment. On a eu Sébastien Proulx, il y a eu André Fortin. Également, il y a Sam Ahmad, il y a son nom qui a circulé. Finalement, a dit qu'il ne serait pas candidat à la direction du Parti libéral. Et sais-tu à quoi ça me fait penser, Louis? Ça me fait penser à la fin de mandat du gouvernement Couillard, où les députés disaient un après l'autre, ben finalement, je ne me représenterai pas. Mm. Alors, pour ceux qui se représentaient, comme moi, à chaque fois qu'on allait en entrevue, on se faisait dire « Hey, ça va pas bien, hein, vos affaires, tous les candidats, tous vos collègues se représentent pas, vous, allez-vous vraiment être candidat? » Puis, dans le fond, les gens quittent parce qu'ils ont l'impression que vous n'avez pas de chance de gagner les élections. Et là, l'impression que ça donne, c'est que ça intéresse pas grand monde parce que peut-être les gens évaluent qu'ils n'ont pas de chance de devenir premier ministre, que le Parti libéral n'a pas de chance de gagner les élections en 2022.
Alors, mais là-dessus, Jean Charest avait une belle analyse hier, je trouvais. Il a accordé une entrevue à Caroline Plante de la presse canadienne, dans laquelle il disait, avec la situation a changé. À une certaine époque, évidemment, quand tu étais élu pour un mandat, généralement, tu en faisais deux là, quand ça allait bien. Là. Puis après ça, on changeait. Mais avec la rapidité des médias sociaux, la donne médiatique a complètement été modifiée. Là.
Effectivement, ça évolue beaucoup. Et les gens ont moins de fidélité aussi. Hein? Avant, là, lorsque tu étais libéral, tu étais péquiste, ben à chaque élection, tu votais libéral ou tu votais pour le PQ. Il y avait une certaine frange de l'électorat qui était volatile, mais cette frange-là, elle est de plus en plus importante. Alors, c'est pourquoi ça change, puis les gens magasinent, puis ils s'informent, puis ils peuvent changer d'idée en cours de mandat. Alors, M. Charest a tout à fait raison. Puis je pense que c'est un peu un message qu'a voulu lancer, justement, aux aspirants candidats libéraux en disant, regardez, ça peut évoluer. Le PLQ peut avoir des chances, pensez-y comme il faut si vous voulez vous lancer. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, c'est vrai que ça ne se bouscule pas au portillon, comme tu le disais tantôt, pour être candidat. Il y a le contexte, évidemment, les sondages ne sont pas très favorables, le gouvernement est en lune de miel. Puis les gens ont l'impression aussi que c'est encore loin. T'sais, on a dit que le congrès au leadership serait au printemps 2020. La date précise n'est pas arrêtée, mais printemps 2020, alors c'est encore bien loin.
Printemps 2020, ça implique que les candidats vont se faire connaître à partir de l'automne. Là,
exactement, parce que la course va durer au maximum 7 mois. Ouais. La course officielle, tu peux te lancer avant. Mm. Mais il y a aussi la question de l'argent. Puis ça, on en parle un petit peu moins. Parce que lorsque tu dis que tu es en réflexion pour te présenter à la direction du parti, ben tes dépenses sont sous surveillance. Mm-hmm. Et puis, le plafond a été limité à 500 000 $. Et si, par exemple, tu dis, ben moi, je suis en réflexion pour devenir candidat à la direction du PLQ, puis là, tu organises des petits cocktails pour prendre un petit peu le pouls des militants un peu partout au Québec, ben ces dépenses-là pourront être comptabilisées dans tes dépenses électorales. Puis 500 000 $, c'est vite atteint. C'est difficile à ramasser. Surtout au provincial. Ouais. Là, pour les courses sur les deux chips, c'est des dons de 500 $, mais sans crédit d'impôt comparativement à ce qui se fait à Ottawa. Alors, il faut que tu y penses comme il faut avant d'annoncer certaines réflexions sur la place publique. Et puis même quand tu confirmes ta candidature, là, il faut que tu aies les moyens de faire campagne, puis de faire campagne jusqu'à la fin, parce que c'est là que ça va compter. Donc, tu dois te garder de la marge de manœuvre, puis ça coûte cher faire la tournée du Québec, ça coûte cher faire la promotion, et ça coûte cher avoir une équipe de campagne. Et ça va être bien différent dans 2013, parce que effectivement, tu vas avoir des bénévoles pour faire campagne pour toi, mais tu dois avoir aussi des permanents qui t'organisent. Ouais. Et puis, ces gens-là, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, tu dois les payer. Et en 2013, la course au leadership avait été très, très près de la défaite électorale. Alors, il y en avait plein d'organisateurs qui vivaient sur leur prime de départ parce qu'ils avaient été dans des cabinets libéraux. Mais là, les gens commencent déjà à épuiser leur prime de départ. Même ceux qui ont fait les 4 ans de gouvernement Couillard dans les cabinets, ça va se terminer au mois d'octobre. Ouais. Donc, vont devoir vivre pendant la course à la direction.
Et la plus organisée, c'est Dominique Anglade en ce moment. Là,
c'est très clair.
Il y a des gens, même aux communications, qui travaillent pour elle. Puis,
absolument.
Bon, un peu dans l'ombre, là, des bénévoles, puis tout ça, mais quand même, qui organisent certaines choses. Il y a Marois Risky, dont on a parlé tout à l'heure. Guétan Barrette, bon, je pense pas qu'il va se présenter, là. Je même s'il n'a pas dit officiellement qu'il ne le ferait pas. Là,
il est quand même lucide. Ouais. Parce que moi, ce que je dis souvent, hein, je l'ai fait la campagne électorale, là, puis les gens qui me disaient en pleine face qu'ils n'allaient pas voter pour moi, là, dans la phrase avant ou dans la phrase après, il y avait le nom de Guétan Barrette.
Okay.
Alors, il a beau là, être une bête politique, mais je pense qu'il est quand même lucide.
Ça, il nous a dit il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je pense. Il dit, ben j'attends la horde de supporters, puis il dit, je l'entends pas. Il dit, une horde d'habitude, voilà. Ça s'entend, puis il dit, là, j'entends rien. En tout cas, je pense
beaucoup de lucidité.
Ouais. Bon, Nanos confirme que la course est plus serrée qu'on pense entre les libéraux et les conservateurs.
Oui, 33-33, 17 pour le NPD, 10 pour les Verts, 4,9 pour le Bloc. Évidemment, ce sont des données nationales. Mais Nanus nous dit qu'il y a quand même 31% des Québécois qui pourraient considérer voter pour le Bloc. Alors, c'est pas des intentions
31%,
de vote.
31%, c'est
mais
beaucoup.
Mais qui pourraient considérer.
Ouais.
Alors, c'est pas une intention de vote, mais ça démontre c'est quoi leur capacité de croissance au Québec. C'est quand même pas négligeable.
Mais maintenant qu'il a arrêté de chicaner, ça va peut-être un peu mieux, là.
Ben oui, effectivement, depuis que Martine a pris sa retraite de la vie politique, ça va un petit peu mieux pour eux autres. Mais ce qui est intéressant dans les sondages, c'est parce que bon, là, c'est un portrait, mais il faut voir quelle est la tendance aussi. Et là, la tendance, elle évolue rapidement parce que Nanos, dans leur sondage hebdomadaire, avait un écart de 4% la semaine dernière en faveur des conservateurs.
Ouais.
Et là, cette semaine, on est à égalité. Alors, ça démontre vraiment que la course se resserre, que la chute des libéraux, elle est freinée. Mmh. Et lorsqu'on parle d'égalité entre les libéraux et les conservateurs, ça veut dire avantage PLC.
Ouais.
Parce que le vote conservateur, il est mal réparti. Alors, t'as beau faire des gains dans les intentions de vote dans l'Ouest canadien, ça se traduit pas en siège parce qu'ils ont déjà fait presque le maximum de gains qu'ils pouvaient faire là.
C'est ça.
Les libéraux n'ont pas grand-chose à perdre en Alberta puis dans les prairies, là, ben honnêtement.
Ouais.
Et ce qui plombe beaucoup les conservateurs présentement, c'est l'Ontario. Puis on le voit dans différents sondages.
La dégringolade de Doug Ford,
ben
forcément.
Oui, et évidemment, dans le reste du Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique, les partis politiques fédéraux et provinciaux sont très liés. Alors, il y avait une proximité entre le gouvernement Ford et le Parti conservateur. Et là, le gouvernement Ford, après un an de mandat seulement, atteint des sommets d'impopularité. Je vais même de suite, on a fait un sondage en Ontario. 73% des Ontariens avaient une opinion défavorable de Doug Ford. Imagine-toi, là, Louis, quand Kathleen Wynne, elle a quitté le pouvoir après l'usure puis un gouvernement très critiqué, elle avait 59,3% d'opinion défavorable. Lui, après un an, est à 73%.
Ouais.
Et troisième des intentions de vote, les libéraux qui ont 7 députés, qui vont en perdre 2, qui n'ont pas de chef permanent, sont à 40% des intentions de vote, sont premiers. Alors, ça aide beaucoup les libéraux de Justin Trudeau. Et puis même, où ça compte beaucoup, dans la banlieue de Toronto, je vais donner un exemple, on a fait un sondage dans le comté de Jane Philpott, parce qu'on voulait savoir comment, justement, elle allait tirer son épingle du jeu. Elle, elle n'est pas en tête, et même, c'est un comté qui serait censé être volatile, favorable aux conservateurs s'ils devaient prendre le pouvoir. Ben, les libéraux sont en tête. Alors, ça démontre vraiment qu'il y a des enjeux pour les conservateurs en Ontario. C'est une province qui est excessivement importante et ils sont en difficulté présentement. Ça va un petit peu moins bien que ça allait dans cette province-là.
Il ne faut jamais oublier que lors de la dernière campagne électorale, Justin Trudeau était 3e au début de la campagne, puis il a gagné majoritaire.
Ben, c'est ça le facteur maintenant, c'est que les campagnes, elles comptent beaucoup plus qu'auparavant. Puis il y a des phénomènes, des mouvements d'opinion publique qui peuvent se confirmer en campagne ou prendre naissance en campagne. Regarde en 2011, la vague orange a pris naissance pendant la campagne.
Voilà. Merci, Luc.
À demain.
À demain.
Bye-bye.